13h-14h, Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs souvent de ce changement. Aujourd'hui, gros plan sur le transport routier, les camions de demain sont en préparation, ils seront évidemment plus propres et vous allez voir que le secteur pense aussi efficacité. Elle existe depuis 4 générations. En Champagne, la maison Fleury est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, eux pensent que le golf n'est pas pour eux, mais une association a décidé de leur démontrer le contraire. C'est l'association pour le golf éducatif et c'est la solution aujourd'hui. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Et pour accueillir nos invités aujourd'hui, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Notre coach aujourd'hui, c'est Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde. Bonjour Jean-François.
Bonjour Raphaël.
Alors, vous savez peut-être qu'une nouvelle réglementation entre bientôt en vigueur. Elle va obliger les camions à réduire leurs émissions de CO2. Deux dates sont d'ores et déjà annoncées. 2025, objectif moins 15%. 2030, objectif moins 30%. Et vous allez voir que le secteur se penche déjà sur la question pour faire rouler les camions de manière beaucoup plus propre. Bonjour Jean-François Weber.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Green GT. Le groupe est un groupe franco-suisse et vous avez été choisi, hein, c'est important de le signaler, par l'ADEME pour développer le projet Cathiopée. On va le regarder de plus près, ce projet. Si j'ai tout compris, c'est la possibilité de développer un moteur hybride, moitié électrique, moitié hydrogène, pour un certain nombre de camions.
Tout à fait. Enfin, on appelle ça une propulsion électrique hydrogène, donc la motorisation est électrique, mais l'ensemble de l'énergie pour pouvoir déplacer le camion est basée sur l'hydrogène.
Alors racontez-moi comment est né le projet Cathiopée.
Alors à la base, Green GT, qui a 11 ans aujourd'hui, est une société qui a décidé de traiter des propulsions électriques hydrogène de forte puissance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez pas beaucoup de stations hydrogène sur le territoire. Et donc, on a essayé de trouver les solutions pour pouvoir utiliser cette énergie qui est extrêmement intéressante parce que finalement, elle est 100% propre. Hein. Ce qui sort des camions, ce n'est que de l'eau. Il y a zéro pollution. Mais par contre, il fallait alimenter les véhicules. Et le camion de transport est vraiment l'objet idéal puisque finalement, un camion représente 10 voitures. Mmh. Aujourd'hui, on a besoin de dépolluer quoi ? Les villes.
Oui.
Donc, un camion, 10 voitures dans les villes, c'est parfait.
Ça a un impact immédiat.
Direct.
Vous dites camion. Tous les camions, les très gros camions ?
Alors, on commence par les très gros camions parce que c'est là où l'hydrogène a toute sa valeur ajoutée. Vous pouvez utiliser des petits camions et dans ce cas-là, en ville, il est peut-être préférable d'utiliser des batteries. Mais avec beaucoup d'énergie et une distance longue à parcourir, la batterie n'est pas la solution idéale. Par contre, l'hydrogène l'est, tout à fait.
Alors, je vois déjà notre coach prêt à bondir, Jean-François.
Non, la question que je voulais vous poser, c'est OK, vous allez faire vos camions à l'hydrogène, mais aujourd'hui, l'hydrogène, il est produit à base d'hydrocarbures. On appelle ça l'hydrogène gris. L'hydrogène vert, ça coûte 5, 6, 7 fois plus cher. Et c'est ça qui est vraiment efficace sur le plan de la réduction des émissions à effet de serre, même si le rendement par l'hydrogène gris est quand même meilleur que par le pétrole.
Oui, on est d'accord.
Comment vous voyez les choses là-dessus ? Parce qu'on n'atteindra pas les objectifs qui sont d'ailleurs tout à fait insuffisants, au passage, dans la loi, par rapport aux objectifs du GIEC, hein, qu'il faudrait diviser par deux d'ici 2030.
Enfin, c'est réglementation européenne, en tout cas décision des 28
pour l'instant.
Ça veut
dire qu'on favorise le transport routier quand même. C'est intéressant comme message politique de la part de l'Union européenne.
Jean-François Weber.
Alors, mon point de vue est très simple. On parle aujourd'hui de transition écologique. L'idéal, à terme, c'est d'avoir une énergie verte pour créer l'hydrogène. Donc, panneaux photovoltaïques, éoliennes, barrages, ce que vous voulez. Pour faire cette infrastructure, il faut du temps. Il faut des années, voire des dizaines d'années. Mais il faut aussi du financement pour ça. D'accord ?
Exact.
Pour pouvoir financer un tel projet, pour nous, l'idéal, ce serait de commencer effectivement avec l'hydrogène gris, avec le réformage de gaz naturel, et d'utiliser la différence de prix entre le diesel et l'hydrogène gris pour financer les infrastructures durant cette période de transition. Ça, c'est pour moi le
comment
modèle.
Comment vous gagnez en efficacité émission de CO2 en passant par l'hydrogène gris par rapport
Alors ça, c'est une question que je peux difficilement vous répondre parce que mon travail, c'est avant tout le camion, pas forcément la fabrication de l'hydrogène en tant que tel. Mais on peut voir la différence par rapport au prix. Hein. Le prix de l'hydrogène gris et le prix de l'hydrogène vert, le facteur, il est de 5, effectivement.
Ce qui est assez intéressant, avec les économies de CO2, ça. Hein.
Oui, mais le rapport, il est de 100% à ce moment-là parce que l'hydrogène vert, il est fait uniquement sur la base de...
Non, mais l'hydrogène vert, le rapport est de 100%. Mais ce qui m'intéresse, c'est comme ça va fonctionner l'hydrogène gris, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, à cause du prix. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant rouler un camion à l'hydrogène gris par rapport à en faisant rouler un camion au diesel? C'est ça la question, sur les émissions de CO2.
Là, il y a un impact réel.
Tout à fait.
Mais combien?
Alors, le calcul, je ne peux pas vous le dire parce que ce n'est pas mon métier de fabriquer de l'hydrogène, malheureusement.
Bon, on va essayer de trouver d'ici la fin de l'émission, je vous promets. Quand on agit sur ce secteur, vous dites l'impact, il est immédiat parce que vous dites un camion, c'est 10 voitures. Pourquoi, par exemple, l'Allemagne est plus avancée? Parce que, justement, eux ont déjà implanté ces fameuses stations. Je crois qu'il y en a une centaine, hein, déjà.
Oui, ils sont entre 80 et 100 aujourd'hui, effectivement. Et je pense que les Allemands ont aussi un territoire plus vaste et des transports beaucoup plus longs. Et ça a dû être leur principale motivation.
Vous travaillez du côté de Signes, dans le Var, parce qu'il y a le circuit Paul Ricard juste à côté. C'est quelque chose qui vous permet de tester, parce que pour l'instant, ce moteur, il n'est pas encore sorti. Il va bientôt être dans un camion.
Ah, tout à fait. Le camion est en cours de construction. Et le fait que nous sommes basés à côté d'un circuit de voitures de course est simplement parce que nous avions choisi, il y a 10 ans, d'utiliser le vecteur de communication sportif pour pouvoir expliquer le phénomène hydrogène et le bien fondé de ces technologies, surtout dans la forte puissance, puisque dans la compétition automobile, vous retrouvez des besoins de puissance et d'autonomie.
Vous planchez avec des groupes étrangers, hein, Mercedes notamment, Carrefour qui est un des clients qui serait intéressé pour mettre justement ce moteur dans ces camions de livraison.
Alors le projet Cassiopée est issu de Carrefour, qui est notre client, qui nous a demandé de faire ce projet, avec une vision à terme de plusieurs centaines de camions. Et le projet vient du client final. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le constructeur qui a amené le projet, c'est le besoin client qui a...
Du coup, les constructeurs regardent de près ce qui se passe dans le projet Cassiopée.
Alors oui, il a été très compliqué de travailler avec les constructeurs de camions parce que ces gens-là aujourd'hui sont très pris par les développements qu'ils ont faits dans les dernières années entre le gaz, l'hybride, la batterie. Et quand on leur parle d'une nouvelle énergie, je comprends tout à fait qu'ils soient un petit peu pas réticents, mais qu'ils disent ok, il faut d'abord qu'on amortisse le travail effectué au préalable.
Elisabeth, des entreprises de transport routier à visée écologique, vous en avez trouvé, je crois.
Oui, j'en ai trouvé une qui existe depuis 2005, Ecolotran. Alors elle a pour credo le transport durable, des camions propres, 100% écologiques. Ils collectent, eux, des déchets des restaurants et avec ces déchets, ils les recyclent en biocarburant. Écolotran.
Et la transition écologique est aussi au cœur des entreprises, de toutes les entreprises pratiquement aujourd'hui du secteur, on peut le dire.
Oui, c'est l'objectif.
C'est l'ambition. Hein,
c'est l'ambition. Depuis 2008, on a recensé plus de 1500 entreprises françaises engagées dans le dispositif Objectif CO2. Hein, vous pouvez aller voir sur la Objectif CO2, c'est une plateforme d'échange en ligne des données environnementales dans le transport. 1500, c'est pas assez quand on sait qu'il y a près de 36 000 entreprises dans le transport routier en France.
Allez, on reste ensemble et on continue à parler transport routier aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09. Europe 1.
Optimiser le taux de remplissage des camions, c'est faire aussi des économies pour qu'ils ne roulent plus à vide. Une start-up a imaginé un système de mise en relation et beaucoup plus que ça, vous allez le voir. Elle s'appelle Everroad. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez le meilleur de la France bouge. Aujourd'hui, gros plan sur les transports routiers parce que les camions de demain seront plus propres. Raphaël Duchemin.
Alors, vous serez d'accord avec moi, on croise tous les jours sur les routes des camions qui vont décharger de la marchandise. Mais une fois arrivés à destination, ils repartent la plupart du temps à vide. Or, c'est une perte de temps, d'argent aussi. C'est aussi une source de pollution du coup. Alors, une start-up a eu l'idée de s'attaquer au taux de remplissage. Bonjour Maxime Legardé.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et PDG d'Everroad. Vous avez imaginé une plateforme de mise en relation entre les sociétés de transport, les expéditeurs de marchandises. L'idée, c'était de rentabiliser au maximum, mais pas simplement en faisant de la mise en relation, en allant beaucoup plus loin que ça.
Exactement. En fait, le point de départ, il y a 3 ans, c'était de me dire que déjà, le marché du transport routier de marchandises, c'est un peu la colonne vertébrale de notre économie. C'est 40 milliards en France, c'est plus de 300 milliards en Europe. Et en fait, 99% des produits qu'il y a autour de nous transitent par nos routes. Que ça arrive du port de Rotterdam, de l'aéroport de Schiphol ou de n'importe quelle gare. Et de l'autre côté, on a un marché extrêmement fragmenté. On a plus de 36 000, vous l'avez mentionné, sociétés de transport en France, 500 000 en Europe. Et 90% de ces sociétés opèrent avec moins de 10 camions. Donc on est sur des sociétés de petite taille qui, en fait, depuis l'après-guerre, optimisent un petit peu leur business avec un papier et un stylo.
Elles font les choses dans leur coin sans forcément regarder ce qui se passe autour d'elles.
Exactement. Et en fait, si on regarde un petit peu, alors le chiffre différencie sur leur certain rapport, mais on a entre 20 et 30, 35% sur certaines typologies de fret, des kilomètres parcourus par les véhicules qui sont réalisés à vide. Mmh. Et moi, quand j'ai compris ça il y a 3 ans, je me suis dit, c'est un petit peu aberrant. C'est aberrant sur le point de vue, d'un point de vue économique, parce qu'avec plus d'optimisation, ça peut avoir une répercussion sur les coûts. Des coûts moins chers de transport pour les expéditeurs, pour les chargeurs, mais également pour les transporteurs, qui ont quand même des sociétés avec des marges extrêmement faibles. Et aberrant sur le point de vue environnemental et écologique, dans le sens où vous l'avez mentionné juste avant, c'est quand même un des enjeux de demain et même d'aujourd'hui.
Donc vous proposez de mettre en relation les sociétés. Comment est-ce que vous faites? Vous avez une plateforme, vous dites on va au-delà, parce qu'il y a des concurrents qui font déjà ce business là. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Vous gérez de A à Z, finalement, le point de départ de la marchandise et son arrivée avec
l'emplissage.
Alors, on va se mettre
à la place d'un expéditeur. Aujourd'hui, on travaille avec des sociétés, des TPE, des PME, mais également des sociétés comme Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Danone. Vous allez rentrer sur notre plateforme, vous allez pouvoir mettre un besoin de chargement, que ce soit pour ce qu'on appelle un transport spot, d'opportunité pour demain, mais on va également prendre en compte vos plans de transport réguliers sur les 12 prochains mois, tous les flux entre vos usines. Vous allez avoir une transparence totale sur le prix. Aujourd'hui, c'est inexistant dans cette industrie, le prix, c'est extrêmement opaque.
Pourquoi ?
Regardez sur Google, vous tapez transporter 30 palettes de shampoing de Paris à Toulouse, vous n'allez pas avoir de prix. Donc en fait, nous aujourd'hui, on a des ingénieurs qui travaillent sur un prix d'optimisation en temps réel, selon l'offre disponible dans les camions, selon des contraintes, des paramètres qui permettent de donner un prix pour un transport donné ou pour sécuriser une ligne de transport pour les 12 prochains mois. On va également ajouter une dimension de service de qualité, parce qu'en fait on va, connaître tous nos transporteurs. On a rassemblé aujourd'hui le plus grand tissu de transporteurs d'Europe. On travaille avec 4000 sociétés de transport, oui. Soit 250 000 véhicules. Et pour ça, chacune des sociétés, une fois qu'on on les onboard, on va connaître, si vous voulez, leur coefficient de remplissage. On va connaître également le pourcentage de quand ils sont à l'heure au chargement, à la livraison.
Donc là, je peux, par exemple, regarder la plateforme une fois que j'ai créé mon profil et savoir si j'ai un transport à faire demain, par exemple, quel est le camion qui va pouvoir peut-être repartir à vide et au lieu de repartir à vide, mettre mon chargement à l'intérieur.
Vous allez pouvoir mettre votre besoin de chargement pour demain de cette palette, par exemple, de Lyon à Nice, et peut-être qu'un transporteur fera Strasbourg, Monaco, et pourra prendre ses 3 mètres planchers disponibles dans son véhicule, au meilleur prix, et comme je vous le disais, avec un niveau de qualité qui est pour nous un niveau d'exigence, dans le sens où nos plus grands chargeurs souhaitent quand même de la qualité, une transparence sur le prix, du track and trace, et une meilleure vue, en fait, pour piloter leur transport.
Jean-François ?
Moi, je trouve ça génial, évidemment, c'est super. Vous avez une petite idée du volume de places vides, partielles ou totales, que les transporteurs ont à l'heure actuelle sur le marché ? Et c'est quoi, 10%, 15%, 20%, 25%, 40%?
Alors quand on va regarder les chiffres de l'ADEME ou du CNR, on va avoir des taux qui vont être entre 20 et 30, 35%.
Donc on a 35% de places disponibles, quoi, si on remplit bien. Quoi.
Ce qui est énorme. Ce qui est complètement énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet est traité, même à la Commission de Bruxelles, en disant qu'il y a eu l'OCDE qui a publié un rapport l'an dernier qui expliquait qu'en fait, d'ici 2050, la mutualisation et les plateformes collaboratives seront d'une des nécessités pour pouvoir, en fait, accompagner la transition environnementale des véhicules.
Oui, parce que ça a un impact, évidemment, sur le nombre de camions qui roulent, sur les émissions de CO2, etc. etc.
Bien sûr, bien sûr. En fait, vous avez construit le blablacar du transport routier, quoi, quelque part. C'est un peu ça, votre concept.
Si on prend en compte uniquement l'optimisation, je pense qu'on peut exactement dire qu'on peut être le blablacar du transport routier.
Mais vous mettez en valeur la qualité aussi, c'est-à-dire que la marchandise, tout est bordé de A à Z.
Exactement. En fait, nous, on est commissionnaire de transport, donc sur le point de vue légal, c'est-à-dire qu'on est responsable de la marchandise de A à Z. Donc, quand Procter & Gamble nous confie des chargements pour les 12 prochains mois, eh bien, nous, on leur apporte une visibilité totale avec du track and trace en temps réel. On leur apporte un prix extrêmement compétitif sur son plan plan de transport. On leur apporte également une équipe dédiée, un service client, parce que derrière la brique technologique, il y a aussi l'accompagnement humain. Derrière, on a une équipe bientôt de 100 personnes avec des professionnels du transport qui nous ont rejoints maintenant.
Oui, j'ai vu 160 même peut-être d'ici la fin de l'année, avec un développement important. Hein. Vous avez levé 1 million d'euros.
On a levé 2 millions d'euros il y a 24 mois, on a levé 16 millions d'euros il y a 12 mois, donc 18 millions d'euros au total.
Ah oui, ça rigole pas du tout là.
On a la chance d'être accompagné par des
start-up.
On est accompagné par des grands fonds d'investissement et par d'anciens du transport. On a l'ancien directeur monde de DHL.
C'est aller vite surtout.
Et dites-moi, vous intervenez sur toute l'Europe ? C'est quoi
alors,
votre terrain
ça, c'est
de jeu?
La suite. Alors, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne,
non,
c'est en cours.
Ça peut pas être que la France.
Alors, aujourd'hui, étant donné que nos clients sont des clients européens, ouais. On a déjà plus de 40% de nos transports qui sont cross-border. Ce qui fait qu'on fait aussi bien du Espagne-France, du France-Pologne,
c'est-à-dire
ou du Grèce,
d'un pays à l'autre.
UK, exactement. On a une présence physique en France, on a une présence physique en Pologne, pour être au plus proche de nos partenaires transports également. Et cette année, on ambitionne d'ouvrir des pays comme l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas.
Puisque votre angle, c'est les économies d'énergie, l'optimisation, etc. Plutôt que de toujours obsédé par le prix, très bien. Pourquoi vous ne proposez pas à vos clients finaux, comme Procter & Gamble et d'autres, au-delà du prix, d'être en carbone neutre, global sur leur affaire, en intégrant une proposition d'absorption de carbone sur les transports qu'ils font ?
Maxime ?
Alors ça, c'est, on va y aller crescendo. C'est un grand sujet pour
tout de suite, Maxime.
Alors, c'est un grand sujet pour
parce
nous.
Vous savez qu'il y a urgence.
Ah, il va vous mettre la pression. Hein.
Vous avez entièrement raison.
Je le connais.
C'est inscrit dans les missions, la mission de notre entreprise. Ce qu'on souhaite, nous, à terme, c'est de rendre service à tous nos clients, expéditeurs, transporteurs et à construire une meilleure planète. Donc, en montant cette société, moi, en tant que fondateur, je m'engage forcément à aller dans cette direction-là parce que je pense que les économies de demain seront les économies environnementales.
Ouais. Allez, on va continuer à parler transport dans un instant. Restez avec nous sur Europe 1.
Il est 13h20. Europe 1.
Déjà vu un camion décharger les marchandises sur des palettes la plupart du temps. Et si elle aussi, on pouvait justement optimiser leur utilisation. C'est le credo de Magic Palette. À tout de suite.
Et on s'intéresse au transport routier de demain avec vous, Raphaël Duchemin et Elisabeth Assayac. C'est le meilleur de la France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1.
Et vous allez voir que c'est souvent des histoires personnelles qui font naître les projets. Je crois que c'est votre cas, Pierre-Édouard Robert. Bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Magic Palette. Et alors, je crois que c'est quand vous vous êtes retrouvé sur le point de reprendre la PME de transport routier de votre beau-père, il y a 2 ans et demi,
oui.
Que vous vous rendez compte qu'il y a tout un tas de palettes qui sont inutilisées.
Oui, tout à fait, exactement. Il y a à peu près 2 ans et demi, du coup, voilà, j'ai rejoint cette entreprise. Et j'ai tout découvert sur place parce que je n'étais pas du monde du transport.
Non, vous êtes ingénieur en informatique et en électronique,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, exactement. Et quand je suis tombé sur le dossier palette, déjà, je ne savais pas que ça existait. Hein. Vu de l'extérieur, on ne sait pas que ça existe. Et j'ai halluciné.
C'est-à-dire ?
J'ai halluciné de voir que ça nous coûtait 20 points de marge, que ça démobilisait des camions et des chauffeurs pour transporter des palettes vides sans être payé pour ça, alors qu'on en a besoin pour gagner notre vie. Et comme l'a dit Maxime avant, les marges sont compliquées dans le transport, donc on a besoin de nos ressources. Et ça m'a fait tomber de ma chaise. Et peut-être un élément important à expliquer, c'est que quand un transporteur fait son boulot de transporteur, quand il va livrer de la marchandise quelque part,
oui.
Il est chargé de ramener les palettes vides au point d'origine. Et c'est
dans
vraiment
le fameux camion vide de Maxime.
Il y a un lien, effectivement. Ouais. Et donc, voilà, quand on. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et donc, un exemple extrêmement précis qui m'a amené à avoir l'idée, c'est que quand je suis arrivé dans cette entreprise-là, on était en train de se fâcher avec un client à Toulouse parce qu'on leur devait trop de palettes. Et c'était compliqué de démobiliser des camions et des ressources parce qu'on en avait besoin. Et donc, j'ai eu l'idée, du coup, d'allumer Google, de prendre mon téléphone et d'appeler des transporteurs à Toulouse pour savoir s'ils avaient des palettes à me dépanner localement. Et si, en échange, ils n'en avaient pas besoin, là où moi, naturellement, j'en avais à Montélimar, à Montpellier ou Paris.
Coup,
et tout de suite, ils m'ont dit oui. Et on en a fait des échanges locaux au lieu de les transporter.
Et alors là, vous avez utilisé vos compétences de départ pour justement créer une plateforme d'échange de palettes.
Exactement, c'est un site web extrêmement simple à utiliser qui va permettre de mettre en relation tous les transporteurs routiers français et européens et partager leurs besoins de palettes et leurs dettes de palettes et en quelques clics pouvoir faire des échanges au lieu de parcourir des centaines voire des milliers de kilomètres à perte qui polluent au passage.
Voilà. Vous avez reçu deux prix, ouais. Notamment un prix de l'innovation pour cette invention.
Exactement, 2 prix au Supply Chain Event, qui est un salon assez connu en France, et la ICTL, qui avait lieu il y a une dizaine de jours.
Et alors, ça va plaire à Jean-François, parce que
ouais,
vous dites
j'adore.
C'est bon pour la planète. Vous avez échangé ? Vous êtes lancé depuis septembre, de manière
ouais.
Vraiment...
Officiellement décembre.
Vous avez échangé 39 000 palettes. Alors, les chiffres, je sais que ça te plaît Jean-François. 56 000 km évités, 49 tonnes de CO2 non émises. Ouais.
Comment ça coûte une palette sinon?
Palette occasion, c'est entre 6 et 7 euros.
Et neuve?
Et palette neuve, on est entre 10 et 15 euros.
Et on en consomme combien? Ça dure combien de temps une palette? 3 ans, 2 ans?
Alors une palette
mois
Europe, c'est-à-dire que c'est les palettes échangeables, hein, c'est de celles dont on est en train de parler. Il y a à peu près une dizaine de rotations. Cette palette-là est utilisée 10 fois
donc c'est
pour
très
transporter
rapide,
de la marchandise. Et en France, il y en a à peu près 70 millions qui tournent en permanence. Et en Europe, c'est un parc de 600 millions de palettes qui bougent en permanence.
600 millions.
Assez énorme.
Et alors l'Europe, justement, c'est pour quand? Parce que là, on est dans le franco-français. Vous commencez à regarder en dehors des frontières.
L'année prochaine, on voudrait aller planter un drapeau en Allemagne et en Espagne parce qu'il y a le besoin.
Elisabeth, on ne se rend pas forcément compte, mais le transport routier, c'est un secteur majeur dans notre économie.
Ben oui, parce que près de 100% de nos besoins quotidiens sont transportés par la route, et donc notamment par les camions. C'est un secteur qui pèse 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 78% des volumes sont transportés sur moins de 150 km et 57% des volumes sur des distances de moins de 50 km. Donc on entend
on
bien
l'intérêt de l'optimisation.
Moins de 50 km.
57% des volumes sur des distances de moins de 50 km. Et en termes d'emploi, c'est hyper stable, hein, puisque 96% des salariés dans cette branche transport sont en CDI.
Et on a des mastodontes dans le secteur?
Alors oui, il y a énormément d'entreprises. Alors notamment, je pensais à part River Road, on a 50 Truck. Alors 50 Truck, vous le connaissez peut-être. Avec l'intelligence artificielle, eux, ils sont capables de détecter en temps réel des espaces disponibles, hein, comme vous, dans les camions pour optimiser les trajets. Vous avez aussi Freightlink qui met en relation les chargeurs industriels auprès des grands transporteurs régionaux avec aussi une solution clé en main, ou encore Easy Freight. Là, c'est une plateforme spécialisée dans les transports de grosses marchandises et évidemment ça facilite la mise en relation directe entre les industriels et les transporteurs.
On reste ensemble, on continue à parler transport routier dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h30.
Europe 1.
Avec vos questions, bien sûr, Twitter, hashtag Europe 1, on vous attend, c'est la France qui bouge.
Tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h à 14h, c'est la France bouge, même l'été. Et on parle aujourd'hui du transport routier. Comment le rendre moins polluant, plus efficace? Des réponses donc sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin.
Nous sommes avec Jean-François Rial, qui est notre coach aujourd'hui, président de Voyageurs du Monde.
En grande
Elisabeth,
forme, hein.
Oui, toujours.
Je vais fâcher par Elisabeth, hein, je vais être un peu plus gentil.
Elisabeth Assayag est là, évidemment. Jean-François Weber, cofondateur de Green GT, Pierre-Édouard Robert, fondateur de Magic Palette, et Maxime Legardet, fondateur de Ever Road. On a des questions au 39-21. Alors, on va revenir au sujet de départ, l'hydrogène, évidemment. On a Anthony, dans le Finistère, qui nous dit « On nous explique que l'hydrogène est fabriqué à partir de pétrole. On a tous appris au lycée l'hydrolyse de l'eau pour obtenir de l'hydrogène. Je me demande pourquoi ne pas utiliser cette technique de manière industrielle pour obtenir de l'hydrogène pur ?»
Bah, pour une raison très simple qu'a évoqué monsieur tout à l'heure, c'est que c'est 5 à 6 fois plus cher.
Alors, on me dit en régie, il y a une grosse partie de cet hydrogène qui vient des déchets. Donc finalement, même si c'est gris, j'ai envie de dire, c'est moindre mal, non Jean-François? Puisqu'on avait un débat sur hydrogène vert ou hydrogène gris.
C'est moindre mal, mais c'est pas optimal. Moi, je pense que...
Déchets de l'industrie, ce qui est quand même...
Bien sûr, moi je pense que les gouvernements européens devraient subventionner à mort l'hydrogène vert, en le finançant par des taxes carbone multiples et variées sur le reste de l'activité, pour booster, cet hydrogène vert qui est fantastique, parce qu'il permettrait de remplacer, par exemple, non seulement les voitures et les camions, mais les avions. On pourrait faire fonctionner des avions à 100% à l'hydrogène vert. Mais comme on parle que d'argent en permanence et de prix, qu'on n'assume pas les choses, on ne va pas respecter les délais du GIEC. Il faut subventionner l'hydrogène vert à fond. Quoi.
Avec Jean-François Rial.
Oui, tout à fait. Parce que, comme je l'ai dit dès le début, pour nous, c'est une transition. Donc la cible, c'est 100% vert, ça c'est clair.
Oui.
Et il faut utiliser le passage au gris pour pouvoir taxer ce gris, pour pouvoir créer les infrastructures vertes.
Vous parliez des infrastructures, justement. On n'est pas sur les voitures parce que les camions, c'est presque plus facile en termes d'émissions, évidemment, mais aussi parce qu'on peut mettre des stations là où on charge et là où on décharge.
Effectivement, c'est clair. Le transport routier, c'est typiquement un point point de départ, il fait ses livraisons, il revient au même point. Donc pour recharger ce camion, c'est beaucoup plus simple que d'avoir des voitures où on a besoin d'une série de stations éparpillées sur le territoire.
Un truc qui est intéressant, je ne sais pas si vous le savez, mais le coût d'une station à hydrogène, c'est complètement dingue. Hein. On est dans les 500 millions d'euros hein, d'investissement. C'est un truc complètement hallucinant. Hein. Donc il faut vraiment qu'il y ait une consommation d'hydrogène qui explose pour pouvoir financer ça. Quoi.
Alors, on a pas mal de questions, je vais essayer de toutes les donner. On a Stéphane qui nous dit « Je suis chauffeur routier, j'ai travaillé pour La Poste, je fais rouler des camions vides, il paye un transporteur pour une rotation entre deux villes et pendant presque deux ans, je ne transportais quasiment rien. 9 fois sur 10, le camion doit juste rouler. » là, on est pile dans le cas de ce dont vous nous parliez, Maxime.
Exactement, on est en plein dedans. Ouais, c'est une aberration.
135 litres de gasoil sur une journée pour rien, dit-il.
Ouais. Écoutez, il peut s'inscrire sur notre plateforme.
Mais qui vient chez vous, hein. C'est La Poste hein, qui doit le faire, surtout. Parce que là, manifestement, c'est les colis de La Poste. Stéphane, il est chauffeur routier pour La Poste. Il y a un gros souci, nous dit Marie, avec les commandes par Internet qui créent un flux de camionnettes sur nos routes qui polluent énormément. Il y a par jour des dizaines par petite commune. Ça crée de gros soucis d'excès de vitesse aussi et de mise en danger des automobilistes. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que c'est important de le signaler. Et puis, on a Manuel qui est transporteur routier. Qui affrète les petits camions qui viennent de l'Europe de l'Est et qui roulent 24 heures sur 24, nous dit-il. Message envoyé depuis Sisteron. Ça, c'est vrai que c'est aussi un des problèmes. Moi, je voudrais savoir l'avenir. On sent bien que les choses sont en train de bouger et vous le dites très bien. Quand est-ce qu'on sera vraiment passé de l'autre côté? À l'horizon 2025, on a mis des objectifs tout à l'heure pour l'hydrogène, pour la baisse des émissions de CO2. Mais quand est-ce que cette transition, elle sera vraiment effective? On ne sera plus en train simplement d'en parler. Ce sera une réalité, d'après vous?
Quand, c'est dur à dire, en tout cas il faut agir, c'est une course contre la montre et nous Magic Palette, à partir du moment où j'ai eu l'idée, j'ai pu arrêter d'y penser parce que je savais que c'était des tonnes et des tonnes de CO2 qu'on allait économiser, donc voilà, c'est une course qu'il faut qu'on fasse tous et voilà, c'est l'action, il faut agir.
Même question pour vous, on est déjà la partie déjà en partie gagnée puisque vous agissez, mais quand est-ce qu'on aura fini d'en parler pour vraiment être dans les faits?
Alors, j'ai pas la date exacte, mais avec le GIEC, on a quand même la date butoir. On sait qu'il faut tous agir. C'est de la responsabilité de chacun. Je pense que nous, on le fait à notre échelle. Je pense que c'est extrêmement bien de voir ce qui se passe au niveau des constructeurs automobiles. C'est extrêmement bien de voir aussi qu'il y a aussi de plus en plus une responsabilité des chargeurs eux-mêmes de contribuer à acheter du transport plus vert. Et ça, je pense qu'il faut que ça rentre un peu dans les mœurs et que ça devienne un peu monnaie courante.
Jean-François ?
La clé, c'est les patrons. Les patrons du transport routier, les patrons des agences de voyage, les patrons des compagnies aériennes, tant qu'ils penseront que ce qu'ils font, c'est génial, alors qu'ils font 5% du chemin, on ne va pas avancer. La clé, elle est vraiment là. Moi, je le vois dans mon métier, où l'avion est encore pire que le transport routier, où on se bat pour proposer des solutions, et on commence à peine à commencer à être écouté. Petite parenthèse, j'ai dit une ânerie tout à l'heure sur les stations de gaz à hydrogène.
Ouais, sur le
chiffre. C'est 50 millions, ils en pensent 500. Bah, monsieur m'a rectifié à juste titre.
Ça faisait effectivement beaucoup.
Oui, voilà, j'ai dit une ânerie. Voilà, je me souviens du chiffre de 5, mais j'ai dit une bêtise.
Bon, 50, c'est déjà pas mal. Hein,
c'est déjà pas mal, oui.
On vous remercie d'être venu parler avec nous aujourd'hui, transport routier sur Europe 1. C'était une émission passionnante et merci d'agir tout simplement pour que la planète aille mieux demain.
Merci beaucoup.
Merci.
Il est 13h40.
Europe 1.
Vous restez avec nous, elle fait du champagne depuis 4 générations, la Maison Fleury est l'entreprise qui va bien, merci.
Le meilleur de la France bouge se poursuit jusqu'à 14h avec maintenant l'entreprise qui va bien, Raphaël Duchemin.
Eh oui, cette entreprise, c'est la Maison Fleury. Bonjour Morgane Fleury.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Mais c'est un plaisir, 4e génération effectivement. C'est votre arrière-grand-père qui a créé la marque ?
Non, ça c'est mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père qui avait les vignes.
C'est
ça,
lui qui avait les vignes.
1895, ouais.
Mais c'est lui qui fait le premier champagne.
Alors, mon grand-père qui crée la marque en 1929, à l'époque d'une crise économique mondiale qui a frappé un petit peu l'aube. Et comme l'histoire de l'aube, c'est plutôt revendre des raisins autrefois à des grandes maisons de la Marne. C'était où il y a des pionniers à créer un champagne dans l'aube.
1929, c'est ça ?
1929,
ouais.
Exactement.
Et comment ça lui vient, cette idée de faire du champagne ? Parce que c'est pas forcément quelque chose auquel il a pensé au départ. Alors, il y a la crise, certes, on ne vient plus acheter de raisins, c'est ça ?
Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait les raisins, à l'époque, étaient délaissés par les... Enfin, il y avait donc moins de commercialisation, donc un besoin moins important. Et du coup, ça a été le point positif pour nous de cette enfin pour nous, moi j'étais pas de ce monde à cette époque, oui. Mais pour la Maison Fleurie, d'avoir créé une maison de champagne dans l'Aube et d'avoir cette responsabilité de la vigne jusqu'à la bouteille, donc un produit fini à offrir aux consommateurs.
Et c'est quelque chose qui prend tout de suite, qui plaît tout de suite.
Je pense qu'à l'époque, non, justement, il fallait quand même trouver sa clientèle. Je sais que mon grand-père, à l'époque, travaillait que les clients particuliers. Oui. Et il était très fier d'avoir quelques clients à Paris. Et il a fait quand même la première foire de Paris, qui était en 1932, si je ne me trompe pas. Bref.
C'est votre père qui va prendre la suite. Et c'est lui, on peut le dire, je crois, hein, qui développe vraiment la partie internationale.
Qui commence l'export, c'est sûr, mais qui a surtout mis en place en pionnier et précurseur ce travail de respect des terroirs en pratiquant la biodynamie sur le sol.
1989, hein, c'est ça.
Ça plaît à Jean-François tout de suite.
Pourquoi ce tournant? Bon, il est passionné, il a toujours voulu être astronaute, je crois, et il est passionné par...
Oui, en plus, je pense surtout qu'il n'a pas eu le choix. En fait, à l'époque, on reprenait le métier de ses parents, pas vraiment de choix, donc arraché de l'école à 16 ans. Je pense qu'il en a beaucoup souffert, parce que justement, un de ses rêves, c'était d'être astronome. Donc, des années plus tard, quand avec ma mère, aux côtés de ma mère, il découvre cette possibilité de mettre en adéquation le travail, la mise en place, effectivement, des principes de la biodynamie, qui s'intéresse à tout le cosmos, et c'est-à-dire pas seulement du travail des sols, mais cette mise en relation, ça a été pour lui un déclic. Et je crois que ça lui a donné effectivement une grande passion à son travail, encore plus.
Oui, et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'il voit les pesticides arriver et qu'il n'aime pas forcément ce qu'il découvre, hein, les petits logos sur les bidons. Dis-moi, j'ai pas envie de mettre ça dans mes raisins.
Exactement, ni dans ses raisins, ni laisser, au-delà du produit fini, c'est laisser une terre abîmée à ses enfants, donc un respect et une compréhension tout de suite du vivant qu'est notre planète Terre.
Ouais, ça va plaire évidemment.
Non, je suis épaté parce que au-delà du fait qu'effectivement je suis un militant profond de l'agriculture biologique, c'est très rare des gens comme votre père qui si tôt,
1989,
si tôt, ont eu cette conscience. C'est extraordinaire, quoi. C'est
C'est sûr qu'à l'époque c'était marginal et j'ai souvenir qu'au village on était un peu regardé. Bon, c'était.
Non, mais vous avez
70.
Raison, moi en ce moment, je suis en train de faire une ferme biologique dans le Perche. Je peux vous dire que les gens du village, en 2020, enfin 2019, me regardent avec des yeux comme si j'étais un cinglé complet.
Donc imaginez
vous,
en 1989.
C'est fantastique, quoi. Et alors, c'est votre élément de différenciation principal, ça, ou il y en a d'autres?
La biodynamie, oui.
La biodynamie, j'ai envie de dire, j'espère, et surtout la qualité du produit fini, parce que c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir une belle... notoriété, hein, on est tout petit, on ne représente pas grand-chose dans la production de champagne aujourd'hui.
Mais vous dites ça crée un champagne différent, ça crée un champagne qui est plus sucré, plus acide aussi, c'est ça?
Alors on parle beaucoup de minéralité en biodynamie, en fait l'idée c'est de faire plonger les racines, de déliter la roche-mère, de faire un vin de terroir, et donc j'espère avec tous les nutriments bons pour la santé, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'alcool. Et ça, je pense qu'effectivement, les professionnels reconnaissent. Alors, on parle de minéralité, de complexité, de longueur en bouche.
180 000 bouteilles, c'est ça, par an?
Alors oui, avec deux collègues qui ont suivi la démarche de mon père dans le petit village de Courteron, qui est un village de la vallée de la Seine, dans la Côte des Barres. Et aujourd'hui, les années, s'il n'y a pas de difficultés, comme je sais qu'il y en a un petit peu actuellement dans certaines régions viticoles, de gelée ou d'autres,
oui, c'est le cas en
on
moment.
Arrive à produire à peu près 180 000 bouteilles par an avec ces deux collègues.
Combien de salariés?
Plus d'une dizaine en permanent, et puis après beaucoup de saisonniers. C'est vrai que l'implication de la mise en place de la biodynamie nous demande d'être plus présents dans la vie, de coller à sa vie, pour faire
sûr.
Du préventif plutôt que... et de s'intéresser. Donc ça nécessite 30 à 40% de travail.
Avec une très large gamme.
C'est intéressant
on peut
de
dire...
voir que tous ceux qui nous expliquent que le glyphosate est nécessaire et qu'on est incapable de faire la transition en 3 ans du glyphosate, chez Madame Fleury, ça fait 40 ans qu'on n'utilise pas de glyphosate, hein,
ouais.
Et qu'on fait un champagne merveilleux.
Une gamme très large à découvrir pour ceux qui sont par exemple à Paris, dans la boutique que vous avez ouverte il y a 10 ans justement, pour montrer cette diversité. C'est la Maison Fleury, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler.
Merci de m'avoir accueilli.
Il est 13h51. Europe 1.
Ils pensent que le green ne sera jamais leur terrain de jeu. Une association a décidé de changer leur regard sur le golf. C'est l'association Golf Éducatif. À tout de suite, c'est la solution.
La France bouge, suite et fin. On retrouve Elisabeth Assayag et Raphaël Duchemin pour la solution du jour.
Elisabeth, vous nous présentez une solution originale, le golf qui se transforme en méthode de pédagogie éducative, et c'est l'association Golf Éducatif qui porte ce projet.
Oui, rendre le golf accessible, hein, qu'il ne soit plus réservé à une élite, donner la possibilité à des jeunes un peu perdus ou en décrochage, ou tout simplement des jeunes qui sont à l'école, d'être fiers d'eux, c'est l'ambition de Golf Éducatif. Dans cette association, on apprend à des jeunes à jouer au golf d'une manière très rapide, grâce à une certaine méthode. Et ensuite, ils construisent leur propre golf. Et cette association le prouve chaque jour. Le golf, c'est un vecteur extraordinaire pour l'insertion sociale. Ça favorise des rencontres. En moins d'une semaine, une fois qu'ils ont construit leur terrain de golf, eh bien, ces jeunes se retrouvent pour jouer au golf gratuitement. Le golf éducatif, c'est montrer l'importance de notre nature, de notre environnement, pour avoir envie d'en prendre soin plutôt que de la détruire.
Bonjour Stéphane Bachot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de l'entreprise Triangulate Golf Center qui enseigne une méthode rapide pour apprendre le golf, mais surtout porte-parole de cette association Golf Éducatif. Les deux sont intimement liés, je crois.
C'est intimement lié, très, très bien divisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que je gère une entreprise qui s'appelle Triangulate Golf Center qui vend du coaching, de golf. On a une méthode pour apprendre à jouer au golf très très rapidement, et bien plus important que de jouer au golf, on a une méthode pour rendre les gens heureux rapidement. Donc quel que soit le niveau des gens qu'on touche, que ça soit déjà des golfeurs, que ça soit des non-golfeurs, et comme vous le dites, que ça soit aussi des jeunes dans les banlieues, mais plus largement des jeunes à l'école, puisque historiquement, cette invention vient d'un génie gallois qui s'appelle Bill Owens, qui en 1991, arrivé en France, découvre un peu par un eureka un moyen unique de faire jouer tout le monde au golf très rapidement, alors que jusqu'à aujourd'hui, il fallait des années pour apprendre à jouer ce jeu dit très technique. En fait, on met en place un geste aussi naturel que votre façon de marcher, et n'importe qui est capable de jouer en quelques minutes.
Alors justement, en une demi-journée, on arrive à jouer au golf, et vous dites qu'avec le golf, vous voulez changer l'avenir de la planète. Donc il y a une dimension environnementale aussi.
Oui, parce que quand je découvre ça en 1995 avec Bill, et que je tombe de l'armoire, parce que j'étais déjà golfeur, j'avais jamais vu ça de ma vie, je pensais pas que c'était possible. Et lui, il me dit, écoute Steph, avec cette façon d'apprendre, je veux pas faire des académies de golf, je veux changer le monde. Mais carrément, radicalement, il m'a dit, je vais changer l'avenir de la planète. Je lui ai dit, ah bon, tu vas faire comment? Il m'a dit, oui, parce que c'était interpellant. Donc il me dit, je vais mettre le golf à l'école. Je lui ai dit, ah bon, mais comment et pourquoi? Il me dit, parce que quand on joue, jouer, c'est l'opposé de se battre. Aujourd'hui, tout le monde cherche un moyen d'arrêter de se battre. Il me dit, Steph, c'est très simple. Il faut donner à la population, au plus grand nombre, à la planète entière, un moyen de jouer contre quelque chose qu'ils ne peuvent pas battre. Et la nature, c'est la solution. Et il me dit, avec cette méthode pour apprendre à jouer au golf en quelques minutes, on va mettre ça à l'école, ça va leur enseigner le respect, l'étiquette et l'humilité, qui sont les trois grandes valeurs du jeu, qui sont certes les trois grandes valeurs d'un sport, de tous les sports. Sauf qu'au lieu de gérer un projet socio-éducatif par le sport, qui ne s'adresserait qu'à des sportifs en puissance, on s'adresse là avec un jeu pour tout le monde. Et finalement, le jeu, c'est la colle qui nous lie les uns avec les autres.
Et là, donc, c'est mis en place dans les écoles primaires, collèges, lycées. Comment ça se passe avec les jeunes à qui vous enseignez cette méthode? Puis, ils construisent leur propre golf.
Alors, au début, évidemment, c'est un peu. J'ai des souvenirs parce que j'ai un de mes bons amis maintenant qui s'appelle Brahim, qui était des Bosquets à Montfermeil, donc d'une belle cité assez difficile. Quand il nous a vu arriver avec ses copains, ils ont dit : « Mais vas-y, il est garé où ton yacht ? Tu crois quoi ? On va jouer au golf ? » Mais évidemment, mais c'est un peu spectaculaire. Et quelques minutes plus tard, il touche des balles de rêve. Et surtout, les copains qui viennent le voir en disant : « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ton swing ? Qu'est-ce que c'est beau ton geste ? » Et vous savez la valeur de ça ? Pour un jeune, d'avoir la fierté, d'avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien soi-même et non pas à travers une équipe. Ce monsieur Brahim, aujourd'hui, s'il nous écoute, il est professionnel de golf, il est diplômé, il est membre de la PGA France, sorti des banlieues de Bosquets à Montfermeil. C'est juste des exemples fabuleux. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de golfs un peu partout en France. Et l'accueil de ces jeunes, et ce n'est pas que des jeunes de la banlieue, bien sûr, c'est tous les jeunes de France, des écoles. Changer le monde avec le golf à l'école, imaginez, puisque chaque gamin plante un arbre, ça fait 12 millions de scolarisés, ça serait déjà 12 millions d'arbres en France. Combien en Europe? 500 millions. Enfin bon, on l'a, la solution.
C'est beau, vous écouterez pendant des heures. Vous avez raison, on l'a, la solution. Ouais, il est très bon.
On l'a.
Merci à Jean-François qui a été très bon, comme d'habitude également.
Merci à vous.
À demain.